par rapport au programme Sans Corée, par rapport à l'éducation numérique, par rapport au problème de l'éducation en Afrique, avec le sous-développement, avec toutes les conditions dites expérimentales de la difficulté. Mais je sais, parce que je suis un ami de l'Afrique, comme Alain Madelin, nous savons que vous avez tous les ressorts pour partir du sous-développement, pour arriver peut-être en avant, et aussi vite que les pays du Nord. Merci.
Merci beaucoup. Bonjour à nouveau. Je suis content là d'être parmi vous, parce que c'est pas tous les jours qu'un politique se retrouve parmi des chercheurs, des praticiens, et finalement j'ai eu la réponse aux raisons là qui ont prévalu à ma présence au-delà de l'invitation amicale. Il fallait qu'en tant que responsable politique, partager avec vous ce que sont nos préoccupations, notre vision du développement, notre vision de l'éducation, et puis se nourrir comme ça réciproquement. J'ai entendu de très belles choses depuis hier, et aujourd'hui je suis convaincu que c'est dans ce dialogue entre praticiens, politique, que l'on va trouver les bonnes voies ou les meilleures approches, notamment sur les questions dont on parle depuis quelques jours, depuis hier, l'éducation numérique. Alors, pour aller droit au but, je voudrais commencer par dire que nous ne sommes pas contre la technologie. Ça pourrait être quelque chose de surprenant, mais en dépit de nos conditions parfois difficiles, le Burkina Faso n'est pas, en tout cas pour ce qui concerne le gouvernement, nous ne sommes pas technophobes. Et je crois que c'est bon de commencer par le dire. Et que l'éducation numérique semble pour nous une piste intéressante de réflexion. Mais en même temps, nous sommes obligés de tenir compte d'une réalité. La réalité aujourd'hui, c'est que nous avons encore près de 70% d'analphabètes au Burkina Faso. Nous avons un taux de scolarisation inférieur à 80% et un taux d'achèvement autour de 50%. C'est que pour le primaire. Au niveau du secondaire et du supérieur, les chiffres sont encore beaucoup moins rassurants. Dans un tel contexte, vous demanderez pourquoi alors s'intéresser à l'éducation numérique et aux technologies de l'éducation. Mais parce que nous pensons que ces outils techniques peuvent permettre de résoudre un certain nombre de difficultés. Lorsque dans une classe nous avons un peu plus de 100 élèves, on voudrait que la technique, à ce moment-là, accompagne l'enseignant à mieux faire son travail. Lorsque nous avons pas la possibilité de construire des écoles dans toutes les régions et dans toutes les provinces, à ce moment-là, on est intéressé par comment la technologie pourrait aider à apporter de l'éducation, de la formation à ces enfants, à ces adultes qui n'y ont pas accès. Depuis plusieurs années, on parle de ces projets. Il y a dans certains cas des expérimentations très intéressantes que nous saluons. Mais en même temps, on voit bien que l'impact est très marginal. Et que ce qui est fait ne permet pas toujours de répondre aux priorités du moment. La priorité aujourd'hui pour un gouvernement comme le nôtre, c'est apporter l'éducation au plus grand nombre de personnes et apporter une éducation de qualité. Jusque-là, on a parfois privilégié la quantité au détriment de la qualité. Et aujourd'hui, de plus en plus, il est question d'articuler les deux et de faire en sorte, notamment dans le cas du Burkina Faso, qu'en, d'ici 2015, nous puissions porter le taux d'alphabétisation à 60%. Et là, nous sommes intéressés par comment le faire. Est-ce que la technologie, à ce moment-là, peut nous y accompagner? Comment? Quel type de projet? Et avec qui? Et aujourd'hui, après avoir entendu parler de recherche, des résultats de la recherche, je suis convaincu qu'il faut aussi de la recherche en Afrique, pas de la recherche effectuée en Occident dont les résultats peuvent être utilisés ou transférés en Afrique, mais de la recherche organisée entièrement en Afrique avec des acteurs africains sur des élèves et étudiants africains. Et à ce moment-là, peut-être que les résultats seront tout de suite utilisables. Et nous avons également pensé qu'il était important qu'en termes de technologie, que la technique ne devance pas tout, que nous ayons des projets bien pensés, bien ficelés, qui permettent, in fine, d'avoir un usage raisonné de la technique. Et quand j'entends les questions que l'on se pose encore aujourd'hui en France, alors qu'on a une longueur d'avance sur un pays comme le Burkina Faso, ben ça me rassure. Cela me rassure à plusieurs titres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de se poser la question et de ne pas entrer dans une utopie qui va être plus nocive que productive, ben, je vous dis, ce n'est pas une si mauvaise chose. Si aujourd'hui, en tant que gouvernement, nous disons oui à la technologie, mais en même temps nous disons nous ne sommes pas des aventuriers, nous voulons être prudents, la technologie, oui, mais pour quoi faire? Et que quand il faut parler budget, on regarde à chaque fois quelles sont nos priorités et comment on peut faire en sorte de tirer le meilleur de ce que le progrès technologique a permis d'obtenir. Et donc, je voulais dire, avant de donner la parole à tous ceux qui sont autour de la table, que le projet Sankoré a été accueilli au Burkina Faso avec beaucoup d'enthousiasme, mais en même temps dans un langage de vérité. Nous avons dit à nos partenaires, oui, nous voulons y aller, parce que nous pensons qu'on peut trouver des solutions à certains de nos problèmes par ce biais-là. Mais il va falloir que les choses soient faites en tenant compte des réalités du milieu. Nous avons commencé aujourd'hui à former un certain nombre de personnes qui sont censées par la suite démultiplier, mais la vérité, c'est que quand vous n'avez pas encore résolu vos problèmes les plus élémentaires, quand dans un village du Burkina Faso, il est encore question de manger, de se soigner correctement, vous parlez de tableau numérique interactif, on dit vous êtes bien gentil, mais pour l'instant, nous avons d'autres préoccupations. Mais le gouvernement a cette conviction de dire on ne va pas attendre de résoudre tous les problèmes avant de profiter du progrès technologique. Il faut y aller, mais il faut y aller avec une méthode, il faut y aller avec beaucoup de prudence, il faut y aller en mettant un projet en avant. Et ce projet-là, dans le cadre de Sankoré, ce serait d'utiliser les tableaux numériques interactifs, notamment dans l'alphabétisation en milieu urbain, là où nous pensons que le bain linguistique est suffisamment intense pour faire de l'alphabétisation en français fondamental, en français fondamental fonctionnel. C'est une piste de travail. Nous allons également voir avec les alphabétiseurs, mais également les enseignants volontaires qui croient en la technologie et qui pensent qu'ils peuvent, parce que je l'ai dit à Albert Claude et à Alain Madelin, il nous faut avoir des résultats concrets à présenter. C'est la seule façon de convaincre les sceptiques. Et pour avoir des résultats concrets, il nous faut, avec un groupe de personnes, expérimenter de façon concrète, que ce soit dans l'alphabétisation, que ce soit aussi à l'école, parce qu'aujourd'hui, nous avons pu associer, au-delà des centres d'alphabétisation, nous avons pu associer aussi des écoles. Ils sont partie prenante du processus de formation qui est en cours. Mais il va falloir, derrière, qu'il y ait vraiment un véritable projet, non pas seulement d'utilisation des tableaux numérique interactif, mais un projet plus global de réflexion autour des technologies de l'éducation. Les technologies de l'éducation pour le développement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est André Leroy-Gourhan, au milieu du XXe siècle. En matière de technique et d'objets techniques, c'est le milieu qui décide. Et il va falloir, bien sûr, tenir compte du milieu africain, du milieu burkinabé, pour que, une fois de plus, ces objets techniques ne soient pas objets de désespoir, finalement. Parce que quand ils arrivent, il y a beaucoup d'enthousiasme, sauf parfois par la suite, puisque les résultats ne sont pas au rendez-vous, c'est la déception, puis le désespoir, et demain, même ceux qui étaient motivés finissent par baisser les bras. Et c'est cela que nous voulons éviter dans le cas du projet en cours. C'est pour cela qu'un travail a démarré et nous espérons dans les mois à venir avoir un environnement adéquat d'expérimentation, parce que j'aime bien cette idée de la preuve par les faits. Parce que c'est ce qu'il nous faut aussi en Afrique. Et que l'on ne soit pas simplement dans un discours parfois incantatoire. Finalement, aujourd'hui, nous, en tant que gouvernement du Burkina Faso, pas de souci. D'accord, nous y allons. Maintenant, nous voulons avec vous vous inviter à poursuivre ce travail de réflexion, maintenant aussi une réflexion in situ, que l'on ait un cadre similaire un jour au Burkina Faso, mais pour parler des résultats de la recherche au Burkina Faso, avec des chercheurs burkinabés. Monsieur le ministre. Et à ce moment-là, on aura ouvert les pistes d'une action concrète et d'une action productive. Je vais m'arrêter là pour introduire.
Merci. Vous permettez que je dise un tout petit mot pour simplement à la fois abonder dans votre sens et en même temps pour vous dire que, comme j'avais introduit hier sur ce concept, c'est que le futur, c'est déjà aujourd'hui. Ce futur dont vous parlez, ce futur expérimental, il est déjà le fait. Le programme Sankoré Sénégal fonctionne. Peut-être à une petite échelle encore, mais il fonctionne. Au Mali, c'est pareil. On a débarré 300 classes numériques et c'est en cours d'utilisation par les enseignants. L'appropriation dont vous parlez par les Africains, elle est extrêmement rapide. À Haïti, on a nos amis ici de l'association Haïti Futur, dans les pires conditions après le tremblement de terre, alors que ces pauvres Haïtiens attendent, avec les fonds formidables soulevés par la solidarité internationale, ils attendent encore les écoles en béton qui n'arrivent pas et que les enfants sont encore dans les rues. Eh bien, avec des préfabriqués et avec un vidéoprojecteur interactif, avec 1 000 euros, c'est possible, l'école, les enfants sont à l'école aujourd'hui, à Haïti. Et avec nos petits moyens de la DNA, nous sommes en train d'engager un processus réel, pragmatique, dans les pires conditions du développement et du sous-développement et des catastrophes naturelles. Ça veut dire que ce que vous dites, l'appropriation, je l'ai vécu également à Abidjan. On a expédié des classes numériques sans Corée, 2 jours avant l'arrivée d'une délégation officielle, devant Guillaume Soro, le Premier ministre, le ministre de l'Éducation. Je pensais devoir faire le discours de présentation théorique, etc.
Mais j'ai vu trois enseignants ivoiriens. En deux jours, ils ont compris le logiciel Open Sans Corée dont vous parlez, Cyril Pavillard. Ils sont saisis. Ils n'ont pas attendu une formation. Ils n'ont pas demandé de per diem pour avoir la formation. Et ils ont fait des démonstrations éblouissantes que beaucoup d'enseignants français devraient imaginer d'utiliser leur propre logiciel et de les intégrer dans le logiciel Open Sans Corée. Je leur ai dit, mais c'est tellement bien, chers amis, que moi je ne vais pas parler. Parce que vous êtes en train de démontrer que Sans Corée, c'est le programme de la Côte d'Ivoire. Il vous appartient, et c'est pas à moi de le développer, c'est à vous. Et ces collègues, supposés si peu numériciens, ben, tous les jours ils m'envoient des mails et ils m'envoient des programmes qui sont en train de fabriquer de formation professionnelle, cours d'électricité, cours de sciences de la vie et de la terre, des cours en bambara, des cours en wolof. Ils sont en train de le faire, et français langue étrangère. Ben, ça veut dire que la greffe, elle est prise, et que l'Afrique n'a pas besoin d'attendre. C'est déjà un programme africain, comme le dit Alain Madelin, un programme par les Africains, avec les Africains, et c'est comme ça que ça marchera, sinon ça ne marchera pas. Ce qui est essentiel pour que l'écosystème africain se saisisse du numérique, il faut qu'ils aient à leur disposition un logiciel que nous avons appelé Open Sans Corée, un écosystème mondial, mais qui peut être africain, haïtien, etc. Et que ce logiciel va leur permettre à la fois de passer brusquement à l'ère de l'enseignement interactif réel et à la production de ressources contextualisées dont les enseignants africains doivent être les auteurs. C'est pas à nous de faire les programmes du Burkina Faso, c'est au Burkina Faso, au Cameroun et aux autres pays qui veulent faire des programmes en fonction de leur propre curricula, qu'ils puissent les fabriquer dans des coopératives de production avec lesquelles la DNA est prête de fonctionner, de collaborer et d'aider financièrement et intellectuellement. Voilà, c'est ce que nous voulons faire.
Bien sûr. Ben, nous reviendrons là-dessus tout à l'heure au cours des échanges. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes entre partenaires. C'est parce que nous y croyons que nous sommes là. Maintenant, il faut bien diagnostiquer la situation et faire en sorte que les promesses soient à la hauteur des résultats. Mais au cours des échanges, connaissant un peu le contexte du Burkina, on pourra revenir sur un certain nombre de choses. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre donc cette session. Nous allons écouter à présent Madame Thérèse Laferrière de l'Université Laval du Québec sur les classes africaines hors classe.
Alors, bon après-midi. Je vais prendre quelques diapositives un peu pour tenter de vous expliquer, comme j'essaie d'expliquer à moi-même, ce que je fais sur ce panel. Alors, dès que je vais pouvoir ouvrir le tout, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais vous parler de quelques classes africaines hors classe. Alors, je suis contente d'avoir parlé un petit peu avec M. le ministre ce midi, là, pour démarrer un peu notre conversation. D'où j'arrive pour vous parler de cela? Moi, je suis directrice d'un centre de recherche sur la réussite scolaire au Québec, où nous avons des chercheurs de 7 universités, environ 35 chercheurs, et de plus en plus, les TIC deviennent objet de préoccupation, alors que c'était très périphérique, mes recherches en 1994, alors que je m'intéressais à établir, si vous voulez, un pont électronique entre l'université et le milieu scolaire pour la formation d'enseignantes et d'enseignants, qu'en 2002, on a démarré une initiative qui s'appelle l'École éloignée en réseau au Québec, et qu'en 2009, on a commencé à faire quelques travaux très, très modestes au niveau de la classe africaine en réseau. Alors, c'est ce qui m'amène un peu ici. Mais j'aimerais d'abord vous présenter ce schéma, le référentiel UNESCO des compétences TIC pour les enseignants, où vous voyez qu'il y a trois grandes compétences qui sont promues depuis 2008. Ça a été lancé d'ailleurs ici à Paris. L'alphabétisation technologique, l'approfondissement des connaissances et la création de connaissances. Alors, c'est vraiment ce modèle avec lequel nous opérons. Alors, derrière ce document, il y a toute l'influence des sciences de l'apprentissage. Hier, j'entendais « sciences de l'apprendre ». Ce sont les « learning sciences », il y en était beaucoup question ici, ou encore les sciences cognitives appliquées. Plus particulièrement, moi, je me réfère à deux branches à l'intérieur de cela. Le « deep understanding », apprendre en profondeur. Il y en était question un peu ce matin. Hein, l'importance d'aller à la verticale, de bien comprendre et de ne pas simplement survoler les questions. Il y a aussi la co-élaboration de connaissances que nous appelons le knowledge building, les knowledge building communities et l'influence de collègues Beret Torres Cardamalia et leurs écrits. Et de plus en plus, le knowledge building, nous l'appelons création de connaissances. Alors, au plan méthodologique, nous travaillons avec une approche qui s'appelle le design experiment. C'est pour l'étude de l'innovation. D'itération en itération, nous fournissons des résultats de recherche au terrain afin d'améliorer le devis. Alors, c'est une démarche essentiellement qui est collaborative, où la dimension intervention et la dimension recherche sont très proches l'une de l'autre. Il y a des moments de distanciation, il y a des moments où certains collègues prennent davantage de distance que d'autres, et nous évoluons à travers les années avec cela. Au plan méso, nous faisons de l'analyse écosystémique. Au plan micro, nous faisons de l'analyse de discours. Alors, vous voyez les différents paliers, là, et je vais vous présenter une petite suite d'innovation. Alors, la caractéristique de ce que j'appelle la classe en réseau, c'est l'accès à des ressources documentaires et à des personnes hors la classe. Et je pense que ce qu'on vient d'entendre, le modèle Sankore va tout à fait dans ce sens-là. La piste que j'explore avec mon équipe de recherche et mes collègues, c'est la combinaison du discours oral et écrit des participants du groupe classe. Alors, ça veut dire travailler sur des problèmes complexes. Il y en a été question hier. Les principes, entre autres, il y en a plusieurs, mais un qui est particulièrement important dans le cadre de cette présentation aussi, c'est la nature perfectible des idées du collectif classe. Donc ici, on parle de l'élève qui crée des connaissances où nous reproduisons de manière minuscule ce qui se passe dans les équipes de recherche, si vous voulez. Comme support, nous avons des outils de télécollaboration. Nous nous centrons principalement sur les traces écrites, la trace de la pensée, de l'idée qui s'améliore à l'intérieur d'un collectif. Un premier exemple, l'école éloignée en réseau, ce que nous appelons maintenant le modèle EER depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Alors, problème du maintien de petites écoles, alors ces problèmes auxquels nous nous sommes attaqués, si je puis dire, ça nous prenait des technologies, à tout le moins celles qui étaient pour porter le discours écrit particulièrement bien éprouvé, qui devait continuer d'évoluer parce que nous avions une preuve de concept à faire d'abord et ensuite une obligation de résultat. Il fallait arriver à l'amélioration d'apprentissage des élèves. Alors, c'est ce que nous avons réussi à faire. Alors, sur le site web, vous aurez les références et les liens qui vous conduiront à ces documents. Alors, vous voyez ici le site même de l'école éloignée en réseau. Imaginez qu'au Québec, pays assez vaste, vous avez plein de petites écoles qui ont une grande bandoulière maintenant en face de leur classe qui dit « Vous entrez dans une école en réseau ». Alors, essentiellement, le modèle, c'est que des enseignants collaborent ensemble à faire travailler les élèves en projet ou à réaliser certaines activités en se partageant un certain contenu de programme, ou encore ce sont des élèves qui travaillent ensemble à investiguer une question complexe. Un résultat, ici, vous avez des élèves qui ont travaillé pendant une heure par jour, pendant un certain temps, au prétexte qu'ils partaient plus bas que leurs collègues dans d'autres classes et qui, au post-test, avait dépassé tous les autres. Alors, c'est un résultat assez ferme que nous avons et dont nous sommes très fiers et qui est présent là, dans nos résultats de 2011. Nous utilisons pour cela le Knowledge Forum. Alors, vous voyez ici, c'est l'élaboration de bases de données faites par des classes, à l'intérieur d'une même classe ou entre des classes, et la distance physique n'a pas d'importance. Alors, en haut, vous avez KBIP, ce qui veut dire Knowledge Building International Project, et je vais maintenant aller vers cela. Alors, c'est à l'intérieur de cet espace que les choses se passent. Essentiellement, le Knowledge Building International Project, ce sont des problèmes en lien avec le développement durable qui sont explorés par des classes. Elles commencent à l'intérieur d'une classe. Chaque classe commence à l'intérieur de sa classe, mais rapidement, il y a des échanges entre classes avec cueillette de données locales. Alors, c'est comme cela que nous évoluons. Alors, vous voyez par exemple ici, deux élèves qui prenaient des prélèvements dans l'eau et ensuite qu'ils rapportaient leurs données autour de l'interrogation qui était à la leur à ce moment-là. On arrive au Gabon, qui est un autre écosystème pour nous, puisque l'Université Laval offre un programme de maîtrise. Et dans le cadre de ce programme, nous avons travaillé avec les enseignants d'abord à ce qu'ils s'habilitent à l'usage du XO et progressivement à ce qu'ils voient des usages nouveaux à faire avec cet outil. Alors, vous avez un peu l'arrangement ici. Je passe vite. Le XO a comme caractéristique que l'environnement, le système d'exploitation, c'est l'élève au centre avec différentes activités autour. Et c'est un outil auquel nous avons cru beaucoup, auquel nous croyons encore depuis quelques années, qui est particulièrement robuste pour se retrouver dans des classes. Alors, sur cet outil-là, naturellement, on peut aller sur le web avec, et nous, on a pu réinstaller notre outil principal de discours écrit, qui est le Knowledge Forum. Et ce que vous voyez ici à l'intérieur du XO, bien, c'est la communauté de chercheurs, d'élèves et d'enseignants qui travaillent là-dessus. Vous avez ici des enseignantes et des enseignants qui, explorant cet outil, ont développé des activités. La tâche de ces étudiants de deuxième cycle, à travers un séminaire, était de créer deux activités en équipe qui pourraient être utilisées dans des classes partant du curriculum du Gabon à l'école d'application de l'ENS de Libreville. Alors, vous voyez les enseignants ici à l'œuvre. Ils ont développé un guide pédagogique directement dans l'outil. Alors, ce que vous voyez ici en haut, ce sont différentes contributions. L'assemblage de ces contributions-là, c'est un outil qui permet la progression du discours collectif, à savoir les différents supports qui sont requis pour faire progresser un discours collectif et qui a mené à ce guide. Il y en a eu un autre qui sera bientôt sur le web, et c'est ce que nous avons appelé la mise à jour des données géographiques et socio-démocratiques du quartier Venez voir à Libreville. Une des équipes, par exemple, une des applications, vous avez ici des plans de leçons. Alors, ils sont capables de faire certains histogrammes. Alors, ici, vous voyez l'application de différentes activités du curriculum selon les activités mêmes. On n'appelle pas ça des fonctionnalités dans le XO, on appelle ça des activités. C'est l'élève au centre qui a des activités. Par exemple, l'activité d'écrire, l'activité de mémoriser, de discuter, d'établir et de mesurer des distances, etc. Alors, naturellement, il y a de la photo qui peut se prendre, il y a des petites vidéos très, très courtes qui peuvent se prendre aussi. Et ce que les étudiants de deuxième et troisième cycle ont fait à ce moment-là, ça a été d'aller sur le terrain, par exemple, dans ce quartier, venez voir, et d'utiliser le XO hors de la classe. C'est un autre sens que nous donnons à hors de la classe pour travailler directement. Un XO peut se connecter avec un autre XO. On peut être en réseau local. Alors, lorsqu'ils étaient dispersés dans le quartier, ils pouvaient utiliser cet outil et prendre toutes les mesures qui étaient requises. Ça donne ce nouveau document. Nous l'appelons un savoir collectif en matière d'utilisation du XO dans des projets éco le terrain. La possibilité que cet outil, qu'est le XO, et naturellement les différentes fonctionnalités de cet outil, puissent être utilisées complètement hors de la classe, en milieu naturel. Un rêve que nous avions, c'était de lier davantage ce qui pouvait se passer en santé et en éducation par la possibilité que des élèves puissent monitorer la qualité de l'eau en certains endroits. C'est toujours un rêve. Au Cameroun, nous arrivons dans un autre écosystème où lorsque l'étudiant gradué qui travaillait dans mon équipe était au Gabon à travailler sur ce projet, alors que moi, je travaillais avec les étudiants de deuxième et troisième cycle de l'ENS Libreville qui étaient à Libreville. Moi, j'étais à Québec. Je ne suis pas allée au Gabon. Cet même étudiant-là, compte tenu qu'il y a eu un changement de ministre à un moment donné au Gabon, est allé au Cameroun. Et il y a eu la formation d'environ 150 inspecteurs d'école et il est dû très prochainement avec son mémoire de maîtrise sur tout le cheminement qui s'est produit et les représentations que les inspecteurs d'école ont eues de ce projet-là. Alors, il y a présentement un fonctionnaire du ministère de l'Éducation qui est intéressé à des études doctorales, qui suit un séminaire de deuxième et troisième cycle que je fais à l'Université Laval présentement. Et ce que vous voyez ici, l'outil Knowledge Forum permet beaucoup d'analyse du discours un peu automatisé. Alors, si vous regardez ici l'histogramme, la participation de l'étudiant camerounais n'est pas parmi les moindres. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, 2 minutes. Oui, on va y aller. On va aller au Burkina Faso, monsieur le ministre. Alors, au Burkina Faso, nous avons le projet actif avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie, où nous avons des enseignants sans frontières, en collaboration avec la Maison du Savoir, le ministère des Relations internationales de Québec. Alors, on s'est posé la question, dans une classe pléthorique, est-ce que c'est pensable le modèle d'école éloignée en réseau? Est-ce que c'est possible de commencer avec des groupes de 20 hors du temps de classe et de réaliser certaines activités en préparant les élèves à du travail de coélaboration de connaissances et partant par la suite que ces 20 élèves-là puissent en former d'autres l'année d'après? Alors, voilà pour le modèle. Nous avons réussi à ce que ces élèves-là puissent participer au Knowledge Building International Project. Alors, ils ont, vous voyez ici un peu l'ampleur du projet. Vous voyez les classes ici plus haut. Alors, les écoles que ça implique, M. le ministre, au Burkina Faso, vous les avez, Ouagadougou, le lycée de Signoguin, l'école secondaire communale et le groupe scolaire de Saint-Viateur. Et vous avez aussi l'école de Koudougou, l'école primaire. Alors, je vous rappelle, intervention et recherche tout le long. Ici, vous avez les ordres de préoccupation des enseignants sans frontières. Alors, c'est des choses qui seront disponibles sur le web et dont on pourra parler tout à l'heure un peu plus. Alors, il y a différents types de difficultés qui sont rencontrées en contexte. Alors, les difficultés de connexion sont encore à 42 % par rapport à des difficultés qui sont liées aux contraintes du programme et des ressources. Mais ce projet-là s'est fait, bien entendu, avec des gens dans votre ministère qui avaient autorisé le tout. Alors, des questions de départ, vous avez un exemple, question de départ qui a été donnée entre deux classes, une classe du Québec et une classe ici du Burkina Faso. Toutes sortes de questions qui se développent avec le temps. Alors, les élèves contribuent à 83 % 17 % les enseignants. Vous avez un exemple de classe, vous en avez un autre ici, vous avez les deux classes qui commencent à converser ensemble. Vous avez des exemples de contributions. Vous avez des annotations sur des contributions de certains autres élèves. Alors, voyez l'interactivité, jusqu'où on peut la pousser. Alors, le niveau de complexité de l'explication des élèves. Alors, plus on va vers la droite, plus, selon notre échelle, le degré d'explication avance. Alors, vous avez ici les différents... Alors qu'au Québec, on parlait des rivières à saumon. Alors, au Burkina Faso, ils avaient leurs propres données locales. Et au Sénégal, bien, on a une communauté de recherche à l'Université Laval où les étudiants de deuxième et troisième cycle demeurent en communication avec les diplômés qui sont rendus au Sénégal et ça s'étend. Et le secret de tout ça, c'est un partenariat dans une approche qui se veut le plus écosystémique, mais en ne négligeant pas l'importance de descendre au niveau le plus micro possible. Et pour nous, c'est l'analyse du discours parce que dans une classe, avant tout, c'est du discours et le discours écrit, il prend une grande place pour l'expression des idées, la compréhension, voire la co-création de connaissances. Merci.
Merci beaucoup, Thérèse. Monsieur Fonquois est enseignant à l'École normale supérieure de l'Université de Yaoundé au Cameroun.
Oui, merci beaucoup. Je remercie les organisateurs de ce séminaire et pour m'avoir invité. Je ne sais comment, mais je suis bien là et je trouve que j'ai bien fait d'être là. J'ai bien fait de venir. Mon intervention arrive à un bon moment, d'après moi, après l'intervention du ministre Alain et puis de Madame La Ferrière, parce que là, nous nous trouvons au Cameroun, comme dans plusieurs pays africains, en face des apports, des modèles différents. Et ce qui est bien, c'est que j'ai compris tout à l'heure que le programme Sankore sera ouvert, capable de combiner, capable de recevoir des recherches en provenance d'autres horizons. Lorsqu'on m'a invité, je me suis demandé qui est-ce qu'on invite? Est-ce que c'est le chef de département des sciences de l'éducation qui a mis sur pied des programmes de TIC? Est-ce que c'est le coordonnateur Rocaré qui fait partie d'un réseau de 16 pays, des centaines de chercheurs qui sont entrés dans plusieurs classes?
Vous pouvez dire ce que c'est Rocaré, parce que tout le monde...
C'est réseau Ouest, c'est Centre africain de recherche en éducation, avec 16 pays, plus de 700 chercheurs, et où nous sommes entrés grâce au programme, grâce à des programmes comme PANAF, qui est un programme, qui est un observatoire de TIC. Nous sommes entrés dans des centaines d'écoles, en raison de 10 écoles par pays, et nous avons suivi comment est-ce qu'on utilise les TIC, comment est-ce qu'on enseigne par les TIC, avec les TIC et à travers les TIC. Est-ce qu'il s'agit de Pierre Fonquois qui a conduit le projet PAKEB, c'est-à-dire programme d'amélioration du programme d'amélioration du système éducatif de base au Cameroun grâce au TIC, un programme gouvernemental, ou bien est-ce que c'est Pierre Fonquois tout simplement qui a écrit, et je vais bien dire, un article qui porte ce nom, les TIC pour les enseignants d'aujourd'hui et de demain dans les pays en développement. Un article dans un ouvrage dirigé par Kersanti, Thierry Kersanti, un de vos camarades, un de vos collègues de l'Université de Montréal? Ou bien est-ce que c'est Pierre Fonquoi qui a écrit « Quel futur de l'éducation pour l'Afrique ?» Et à ce moment-là, je me suis dit, nous allons commencer peut-être par dire oui, c'est, ça doit être lui, parce qu'à travers ses cours de tissologie, je dis bien les cours de tissologie, et depuis 2 jours, je me rends compte que beaucoup de programmes, beaucoup d'initiatives, beaucoup de formulations peuvent constituer un champ sémantique, un champ épistémologique pouvant entrer dans cette science, tissologie. Je l'ai écrit dans un article, l'approche conceptuelle de tissologie. Est-ce que c'est le coordinateur? Et quand on parle maintenant de cet observatoire, TIC, vous pouvez contrôler, vous pouvez y aller, il s'agit des données du vécu de l'intégration des TIC dans les classes au service des chercheurs. Vous y entrez et vous trouverez comment est-ce que vous aurez des données pour pouvoir certainement améliorer, pour pouvoir travailler. Ce sont des données brutes sur les et avec combien, avec des centaines d'indicateurs dans le processus d'intégration des TIC à l'école. Et par contre, pour répondre à cette question, parce que je me suis dit, il faut bien quand même répondre, je me suis dit, l'école africaine est sous pression. Depuis le moment où nous courons après les objectifs du millénaire, depuis le moment où nous sommes en face d'une accumulation de la complexité des savoirs savants, nous sommes en face de la diversité dans la demande et l'offre sociale d'éducation, à une grande diversification des filières de formation, à une montée démographique et les classes. Il y a des classes de 150 élèves, à une économie nationale mal gérée, permettez-moi de le dire, à une extravertie. L'école est extravertie et aucune emprise sur le milieu. Et à partir de ce moment-là, l'enseignant lui aussi africain est lui aussi sous pression. Parce qu'il a cru, et actuellement il est prêt, Sankore, bienvenue, il est prêt à pouvoir mettre en pratique ce qu'il croit déjà. Parce qu'en 3 ans, en 5 ans, on a préparé l'acceptabilité, l'accueil des TIC jusqu'au fin fond des villages. Maintenant, bien sûr, il y a une question d'énergie, mais il y a des possibles. Il pense qu'avec les TIC, il peut être soulagé. Bien sûr, ces TIC qui devraient réguler la modernité et l'émergence de la société des savoirs. Le modèle classique d'enseignant et de la classe est remis en question. Les apprenants obtiennent les savoirs en provenance d'autres sources, des cybercafés, des DVD, des TV. Ceci impose à l'enseignant une autre façon de penser et d'agir. Le côté extraversé des TIC fait éclater le traditionnel triangle pédagogique et nous permet à la fois de rêver à faire de l'école un lieu de communauté réelle. Parce que les TIC peuvent nous permettre de faire vivre tout le monde. Parce qu'un autre type de comportement humain, un fonctionnement basé sur la maîtrise de la culture des réseaux, est impératif. C'est là où nous pensons au développement de la systémique. Mais il est sous pression parce que le pouvoir et son savoir est menacé. Vous voyez un peu, on m'a dit de parler également de l'enseignant de l'avenir. Nous vivons un peu cette évolution. Il est parti de la défiance à la méfiance d'éthique. Défiance parce qu'il s'est dit oui, je peux. Mais vous vous rendez compte? Il se rend compte que c'est compliqué. Heureusement que de plus en plus, on nous montre aussi que c'est facile. Et depuis 2 jours, je trouve que l'approche commence à être l'approche de tout le monde. Je voudrais dire politiquement, il faudrait se poser la question comment intervenir dans ce milieu pour que cette méfiance soit atténuée. L'expérience camerounaise dont je suis acteur m'encourage à dire que la bonne entrée, c'est à l'école normale supérieure. Et là, nous avons eu la chance d'avoir un département des sciences de l'éducation qui parle des TIC, mais également d'un département de l'informatique et des TIC. Nous avons eu la chance d'avoir un réseau de sociétés civiles actifs qui s'ouvre, qui s'accroche aux autres pays et qui mène des actions, j'allais dire, des actions réelles, qui entrent dans des écoles. Quand vous entrerez dans PANAF, vous pourrez aller dans une école. Vous trouverez que on est capable et on est prêt avec cette évolution de former des experts nationaux capables de mener une réflexion stratégique sur les programmes de formation en TIC et au niveau de l'enseignement de base. Nous l'avons fait. On est prêt de contribuer fortement à l'élaboration des politiques de TIC au niveau de l'enseignement secondaire et supérieur. Nous l'avons fait. Mais au passage, il faut passer à l'acte. Nous avons des difficultés sur le plan opératoire. Parce qu'il est temps pour nous, comme a dit M. le ministre de Burkina Faso, d'entrer dans la construction de notre propre savoir. Un savoir ouvert, bien sûr. Un savoir qui est universel. Nous disons que nous voulons partager aussi. Nous ne voulons plus recevoir simplement. Et je pense que Sankore est bien placé. Construction des didacticiels pertinents pour un environnement adapté. Il est urgent, cette fois-ci, que la coopération prenne ce sens. Nous sommes prêts à bâtir des savoirs à partir de nos contextes qui pourront modifier et améliorer les autres savoirs que nous recevrons. Il faut penser à introduire d'autres variables dans la formation des enseignants de demain. J'ai parlé de cette tissologie qui est la science de l'intégration des TIC en classe, qui pourrait normalement fédérer les axes de réflexion que j'ai suivis depuis 2 jours. C'est une science. Il faudrait qu'elle soit cohérente, pertinente. C'est une science. Cet article sur l'approche conceptuelle de la tissologie que j'ai écrit dans un ouvrage peut orienter. Il nous faut introduire les éléments d'ingénierie de formation. Ici, dans les écoles, c'est vrai, on a dit que l'enseignant n'est pas celui qui doit faire, mais il faut au moins qu'il ait des éléments de lisibilité. Et je viens de terminer une consultation en République centrafricaine où c'était sur la politique de formation. À la fin, je leur ai dit que c'est possible de mettre sur pied une chaire UNESCO, chaire doctorat UNESCO de l'ingénierie de formation. Ils ont applaudi, mais j'attends que quelque chose se passe. Évidemment, je suis titulaire, je suis coordonnateur de 2 chaires UNESCO au Cameroun, droit de l'homme et sciences de l'éducation. Je ne sais pas comment eux ils vont faire pour mettre sur pied celui-là. Mais l'idée est là. Parce qu'il faut déjà que nous puissions préparer les gens à comprendre tous ces dispositifs, à les bâtir, à les construire, à les évaluer. Enseigner une classe avec les TIC, c'est préparer les classes, c'est le vivre, c'est l'évaluer. Et il faut avoir des éléments d'ingénierie aussi bien que possible. Il faut introduire les éléments de prospective de l'éducation. Tout à l'heure, vous avez vu depuis 2 jours qu'on nous amène loin dans l'avenir, dans le choix de société, le choix des outils. Il faut que l'enseignant d'aujourd'hui comprenne le sens et la direction et les valeurs que nous voulons normalement mettre sur pied grâce à ces outils nouveaux. Pourquoi je le dis? C'est parce que quand nous verrons dans la tissologie, et quelqu'un, il y a eu 2 ou 3 intervenants qui n'ont parlé que de tissologie, ça me sautait la tête, il faut étudier les nouveaux comportements psychologique en face d'un outil. Vous allez comprendre pourquoi. Il faut des éléments d'éducation au développement durable. Il faut introduire les éléments de pédagogie à l'innovation. Si on ne prend que la tissologie, c'est tenir compte des enjeux didactiques de la formation assistée par l'ordinateur. C'est tenir compte des enjeux psychopédagogiques de la formation à distance. C'est tenir compte des nouveaux comportements des usagers de TIC. Encore 3 minutes, merci. C'est tenir compte des enjeux technologiques et écologiques des TIC. C'est tenir compte des enjeux techniques et technologiques des TIC. Introduire les compétences en ingénierie, c'est pouvoir l'aider à monter, faire des montages d'une plateforme pédagogique pour une formation à distance. C'est l'aider à parler architecture, modularité en TIC, l'ergonomie pédagogique, scénarisation d'un cours. Introduire le cours de prospective, c'est pour une nouvelle vision des fondements de l'éducation. et comme nous connaissons très bien, partir d'une veille prospective de l'éducation qui sera modifiée par les apports techniques, pensée en termes de planification stratégique, qui sera modifiée et aidée par les outils TIC, s'appuyer sur la mobilité, la mobilisation collective des acteurs du système, parce que l'outil informatique est utile pour ça, introduire les cours de l'éducation au développement. Bénéfique attendu, enseigner et apprendre dans, avec, pour le ici et maintenant, le ici et ailleurs, l'aujourd'hui et demain, enseigner et apprendre de façon totale avec tous les sens. Je vous remercie.
Merci. Merci, monsieur Foncois. Nous allons à présent écouter monsieur Maïga, qui lui aussi est enseignant-chercheur à l'université de Bamako, cette fois au Mali.
Les écoles pionnières en Afrique de l'Ouest, en fait, c'est un vieux projet qui date des années 2004-2005. Elle a été suivie par deux autres projets, la recherche action toujours sur ces écoles pionnières, et puis le projet PANAF, dont vous pouvez trouver les résultats du projet PANAF sur observatoire-tic.org. Okay. Donc ce projet, en fait, est parti du fait qu'on a constaté que partout dans l'environnement en Afrique, il y a des cybercafés qui sont ouverts. Les élèves sont en contact, en réalité, avec ces technologies, mais dans le système éducatif, il y en a très peu. Mais il se trouve qu'au même moment, certaines écoles, non seulement des écoles privées, mais aussi des écoles publiques, ont commencé à être équipées avec du matériel informatique et ils commençaient à informer les étudiants dans ce domaine. Donc ce projet, je disais, donc, a été financé par le CRDI et c'est une collaboration entre le réseau Ouest et Centrafricain de recherche en éducation et l'Université de Montréal. En fait, l'objectif, c'était de mieux comprendre, dans le contexte des pays africains, les conditions qui sont de nature à favoriser l'intégration pédagogique des TIC afin de contribuer de façon significative à la qualité et au développement de l'éducation. Bon, il y a plusieurs objectifs spécifiques. La méthodologie, c'est une méthodologie multicas selon le devis de Yin. On a d'abord sélectionné, il y a eu une sélection rigoureuse des écoles, de 40 écoles sur 154 qui ont été présélectionnées en fonction des critères comme la présence d'équipements informatiques, présence d'une volonté d'intégrer les TIC, des enseignants, usage des TIC dans les disciplines et enfin présence de production ou d'initiative TIC. En fait, et aussi ces écoles, il doit y avoir au moins 50% d'écoles publiques, des écoles privées et 15% d'écoles rurales. Bon, l'échantillon avait été constitué en fait par une grande diversité d'écoles dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, à savoir le Bénin, le Cameroun, le Ghana, le Sénégal et le Mali. Au total, on a interrogé 68 000 élèves, 2 600 enseignants, 217 cadres scolaires et 428 autres acteurs scolaires, dont les parents d'élèves. Il y a eu 135 heures d'observation de classe vidéographiée, 201 entrevues individuelles et de groupe, 68 000 questions, 2 200 questions pour les enseignants, 350 documents divers qui ont été collectés au sein de ces différents établissements. Bon, il y a eu l'analyse qualitative, les interviews ont été transcrites, ensuite analysées par analyse de contenu, les données quantitatives ont été analysées par SPSS pour faire des statistiques graphiques. Et faire des représentations graphiques. Bon, les résultats, on va parler des données quantitatives. Au niveau des élèves, il y a 48% de filles et 51% de garçons, avec un âge compris entre moins de 12 ans et 16 ans. 47% disposent d'une adresse électronique, moins de la moitié. Bon, à quelle fréquence ils utilisent l'ordinateur à l'école, on constate qu'il y a 20% qui n'utilisent jamais, mais il y a quand même 51% qui utilisent souvent et 7,3% qui utilisent toujours. Au cybercafé, c'est l'inverse. Il y a plus de gens qui ne vont pas au cybercafé qu'ailleurs. À la maison, très peu de gens ont accès à l'ordinateur à la maison et à Internet. Dans les disciplines aussi, on remarque qu'ils utilisent dans les disciplines, mais le plus souvent, la majorité des élèves n'utilisent pas les TIC pour apprendre les disciplines. À quelle fréquence on utilise l'Internet à l'école aussi, on remarque toujours que les gens n'utilisent jamais souvent. Que penses-tu de l'ordinateur? La majorité des élèves pensent que l'ordinateur favorise les travaux scolaires, 54%. En fait, Est-ce qu'il est important d'utiliser l'ordinateur? 40% trouvent qu'il est important, très important de l'utiliser. Bon, pour les enseignants, on a 67% d'hommes et 32,4% de femmes. À peu près 11% enseignent au primaire et 89% enseignent au collège et au secondaire. Bon, les lieux sur lesquels ils utilisent les ordinateurs, le plus souvent, c'est à l'école. La grande majorité, c'est à l'école. Ensuite, vient la maison après le cybercafé. Est-ce qu'ils utilisent l'ordinateur pour préparer leurs cours? 43,2% ne l'utilisent pas, les autres l'utilisent très peu. Il n'y a que 10,5% qui l'utilisent toujours. Est-ce qu'ils utilisent en classe? 77% ne l'utilisent pas en classe. Très peu l'utilisent en classe. Si on leur demande quelles sont vos habiletés en ce qui concerne différents logiciels, on voit surtout qu'ils utilisent surtout Word et le courrier. Ce sont les deux éléments qu'ils utilisent beaucoup. Bon, si on leur demande s'ils ont bénéficié d'une formation TIC, on remarque que 71,5% n'ont pas bénéficié de formation. Bon, ici, on va parler des entretiens aussi bien au niveau des élèves que des gens. Là, les contenus accédés par les élèves trouvent que les contenus sont souvent satisfaisants, mais qui ne sont pas adaptés au contexte local. Et on pense qu'avec le projet Sankore, beaucoup de contenus seront adaptés au contexte local, ce qui serait un pas important pour l'école en Afrique. Et on remarque aussi que les curricula jouent un rôle primordial dans le contenu accédé et que le problème le plus répandu, c'est qu'on n'arrive pas à faire un contrôle de contenu auquel les élèves accèdent dans les laboratoires d'informatique. Il n'y a aucun logiciel de contrôle. Les disciplines dans lesquelles c'est utilisé le plus souvent, c'est histoire, géo, mathématiques, littérature, sciences de la vie et de la terre, musique et les arts, langues et sciences physiques. Mais très peu d'utilisation en classe avec les enseignants. Pour les enseignants, réalisent qu'ils sont nettement sous-représentés en ligne, ça veut dire qu'ils ne font pas de production individuelle, qu'ils ont une vision erronée d'éthique parce qu'ils n'ont pas été bien sensibilisés, ils sont habitués à des formations traditionnelles, à l'éducation frontale, et ils ont aussi une appréhension d'utiliser l'ordinateur devant les élèves parce qu'on a constaté que dans certains cas, les élèves sont plus qualifiés que les enseignants pour utiliser l'ordinateur parce que les enseignants n'ont pas eu de formation au niveau de la formation initiale. Bon, leurs barrières, ils savent qu'il y a une pénurie de programmes de formation nationaux, il y a un manque de soutien, les formations ne sont pas adaptées et les coûts des formations sont élevés et qu'ils ont une surcharge de travail et un manque de travail et il y a un manque de disponibilité aussi de matériel informatique. Les logiciels sont duciers et non adaptés, il y a pénurie de maintenance, absence de réseau, les services électriques et Internet sont instables et les coûts sont élevés. Je vais passer pour aller au modèle. Qu'est-ce qu'on a fait? On a modélisé suivant deux axes, un axe enseignant élève et un autre axe, discipline, technologie. On a remarqué qu'en fait, les écoles qui ont les meilleures utilisations sont dans le secteur D. C'est là-bas qu'ils utilisent l'éthique pour enseigner des disciplines et c'est ce qui marche le mieux. Il n'y a que 3% des classes et des écoles qui l'utilisent. Les écoles qui utilisent pour enseigner la technologie, généralement, on a remarqué qu'il y a 30%, ils apprennent aux enfants quel est le système d'exploitation, les différentes parties de l'ordinateur, etc. Et ça, ce n'est pas bénéfique pour les élèves en réalité parce qu'ils le maîtrisent le plus souvent à travers les cybercafés. Bon, je vous remercie. Je pense que...
Merveilleux. Merci. D'abord, permettez-moi, avant que le ministre reprenne le pilotage, de saluer le Mali, représenté par notre ami Maïga, puisque vous le savez, nous devons beaucoup au Mali, que le programme Sankore est un nom malien, de l'université de Tombouctou. Et évidemment, le fait que le président Touré a été un des acteurs importants du lancement du programme Sankore par les Africains, par un président malien, c'est un point très important pour signaler l'appropriation de ce concept par l'Afrique. Et vous avez peut-être mesuré, on en parlait avec Alain, la difficulté à laquelle nous attaquons. Maïga a bien présenté tous les problèmes quasiment qui peuvent paraître insurmontables, l'électrification, la formation, etc. Mais en fait, non. Nous pouvons. Il ne faut pas attendre le train de l'électrification générale pour lancer l'éducation numérique en Afrique. Il ne faut pas rater le train de l'éducation numérique. Nous pouvons le faire. C'est réel, c'est possible.
Je suis Josette Bouffard-Thomas de Haïti Futur. Donc, je profite de l'occasion pour remercier Alain Madeleine et Albert-Claude Benamou parce qu'Haïti n'était pas dans le programme. C'est un programme pour l'Afrique. Et après le séisme, je me suis adressée à la DIENA et nous sommes partis en Haïti. Donc, je suis à mon 9e voyage depuis le séisme et nous avons mis ce programme en Haïti. Je peux vous assurer, par rapport à toutes les questions qui se posent, j'ai entendu le ministre du Burkina parler avec beaucoup de précautions, il faut des précautions, mais je peux vous dire, allez-y, parce que les enfants ne peuvent plus attendre. Les enfants ne peuvent plus attendre et je pense qu'on peut parler de changement, de créativité, d'innovation. La première chose qu'il faut pour changer, il faut être gêné. Si nous ne sommes pas gênés de voir les enfants d'Haïti, les enfants d'Afrique, les enfants des pays qui traînent comme ça et qui n'ont pas accès à l'éducation aujourd'hui, eh bien rien n'y fera, ni les technologies, ni rien du tout. Vous savez qu'avec l'argent d'une voiture, vous pouvez acheter...
Je crois qu'il faut applaudir Josette, parce qu'elle est courageuse et elle exprime notre sentiment à tous.
Vous pouvez acheter 30 équipements, équiper 30 classes avec l'argent d'une voiture. Et vous roulez tous en voiture. Vous ne pouvez pas me dire qu'aujourd'hui, l'éducation est impossible. L'outil Sankore, nous avons développé les sciences expérimentales. Nous sommes arrivés en Haïti, nous avons été dans un ministère détruit. Nous avons installé sur un trépied l'équipement que Sankore nous a donné en cadeau au ministère de l'Éducation nationale. Et nous avons commencé à faire classe aux enfants. Aujourd'hui, les premiers résultats aujourd'hui sont probants et les enfants apprennent et nous avons des classes avec plus de 100 élèves et je vous assure que les enfants participent. On a une vidéo qu'on peut vous montrer, vous verrez sur le site de Sankore. Bon, excusez-moi de prendre la parole, mais je vous ai
non,
dit...
Non, c'est très bien.
Je vous dirai que si vous n'avez pas les tripes, si vous n'avez pas la passion de sortir les enfants de l'analphabétisme, vous n'y ferez rien. L'outil est là aujourd'hui, il y a moyen d'aller, allez-y messieurs, et montrer que vous êtes capables du futur de ces enfants qui ne peuvent plus attendre.
Merci de ce témoignage. Il est clair pour nous que alphabétiser les enfants du Burkina Faso est une priorité. Et nous sommes sur ce terrain tous les jours. Maintenant, on n'a pas attendu l'outil pour alphabétiser. Si l'outil est là, il faut que l'outil nous permette d'aller plus vite. Et c'est de ce dont nous voulons discuter. Comment l'outil peut nous aider à aller plus vite en fonction de nos réalités. L'alphabétisation est en marche. Ce qui se passe à Haïti et à Port-au-Prince est un bel exemple. D'accord. Maintenant, pour ce qui est du Burkina, puisque nous voulons généraliser, et pour généraliser, je vous ai donné les chiffres tout à l'heure, c'est voir comment l'outil est capable pour nous d'être utilisé pour le plus grand nombre, pas pour la minorité, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est sur le terrain. Maintenant, c'est faire en sorte que ça soit généralisé et que finalement, tout le monde trouve intérêt à l'utilisation de l'outil. Merci en tout cas pour votre témoignage. La dernière question, on avait promis deux, on a eu un témoignage, peut-être une intervention, tout au fond là-bas.
Merci, je me présente, je suis Solange Maire et je suis responsable d'une ONG qui travaille en RDC, où le programme n'est pas encore commencé. Et je suis très contente et honorée déjà de voir qu'il y a des compatriotes qui ont commencé les programmes Sankore dans leur pays, mais en RDC, on n'a pas encore commencé, surtout dans la région où je travaille, donc à l'est du Congo. Et je suis tout à fait d'accord avec ma collègue qui travaille en Haïti. Et ce que je voulais demander justement aux intervenants, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent recommander, comme eux, ils ont déjà l'expérience du programme aujourd'hui dans leur pays, pour les pays qui n'ont pas encore commencé, et surtout pour ceux qui sont, je ne vais pas dire stigmatisés, mais les exclus. Je vais parler dans des zones de conflit où il y a pas mal des problèmes, notamment des mineurs qui sont en conflit avec la loi, les enfants de la rue, les orphelins, mais aussi dans des milieux où il n'y a pas d'infrastructure. Qu'est-ce que vous pouvez recommander? Quels conseils, justement, vous pouvez donner pour améliorer le programme Sankore? Merci.
Merci, madame. On va peut-être demander à monsieur Maïga du Mali de répondre à la question, notamment sur que dire pour ceux qui ont envie d'aller vers le programme Sankore et quels sont les pièges éventuels à éviter.
Moi, je pense que, je pense que tout le monde doit aller vers le projet Sankore. Parce que si je me rappelle bien, M. Kohn-Bendit avait organisé une conférence au campus numérique de Bamako en parlant de l'arrivée des tableaux numériques interactifs et que même avec l'eau solaire, on pourrait les utiliser au Mali, si mes souvenirs sont exacts. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrainte parce que la plus grosse contrainte en Afrique, c'est l'électricité. Et si on peut utiliser l'eau solaire pour avoir l'énergie pour faire fonctionner un tableau, il n'y a aucun problème.
Un mot sur la philosophie du programme Sankore et comment nous pouvons répondre à des problématiques comme celle de la RDC, mais ça vous mettra plus en perspective ce que nous voulons faire. Le programme Sankore, il est né d'une volonté de la France de contribuer à atteindre les objectifs du millénium en matière d'éducation sur le continent africain. Et nous pensons toujours, plus que jamais, que les technologies du numérique peuvent servir l'enseignement de masse. Donc, pays par pays, en fonction, bien évidemment, de la volonté du pays, ou tout du moins de son éducation nationale, voire d'un groupe d'enseignants, en fonction de leur volonté de s'impliquer, nous, on équipe les écoles. On forme, on aide à la formation d'une coopérative sur le terrain pour l'adaptation des programmes locaux, de façon à créer, au fond, un pôle de référence et de compétences en matière de numérique éducatif dans le pays. Ensuite, on ira un peu plus loin avec l'enseignement officiel, mais l'objectif de l'éducation de masse n'est pas pour nous de moderniser par le numérique les écoles existantes. L'objectif derrière, c'est de se dire, est-ce que nous pouvons faire des écoles qui vont aller vers les enfants qui ne vont pas à l'école? C'est autre chose. Hein, d'où l'importance, on citait Gabi Cohn-Bendit et ce qu'il fait avec le REPTA, justement en direction de l'enseignement non formel. Et c'est pour ça que nous travaillons avec lui. L'enseignement non formel, qui n'est pas un enseignement clandestin, qui est reconnu comme tel dans les pays africains, l'enseignement non formel, dont la part est différente, bien évidemment, selon les pays, mais les pays qui ont le plus besoin de nous, ce sont les pays qui ont généralement le plus d'enseignement non formel. Ces écoles, j'allais dire un peu low cost, payées par les parents, qui saignent, par un État qui n'a pas le sou, qui essaie de contribuer. Ces écoles low cost, elles peuvent être de très bonne qualité grâce aux outils numériques. Parce qu'on va contribuer à la formation des enseignants, c'est un programme dont on n'a pas parlé et on ne va pas en parler, mais on a un gros programme de formation des enseignants par le numérique, pas former les enseignants au numérique, mais de former les enseignants par le numérique. Et puis aussi en leur donnant des programmes tout prêts avec un matériel low cost qui leur permet d'avoir une éducation de très haute qualité ou de meilleure qualité. Parce qu'au fond, grâce à la magie du numérique, je peux prendre le meilleur programme de la meilleure école de Dubaï, de Rambouillet ou de Harvard, et la donner, zéro, dans la plus petite école du Cameroun ou de la région des Grands Lacs en RDC. Voilà, et c'est donc la finalité de ce programme. En RDC, on a des problèmes, parce que c'est pas simple, l'éducation en RDC. Justement, comme c'est pas simple, on a besoin, nous, on aimerait y aller. On va faire une expérimentation de quelques centaines de classes sur Kinshasa. J'insiste sur ce point, c'est parce que vous avez à la fois besoin d'aller mettre des écoles dans des villes, dans des campagnes éloignées, et vous avez aussi besoin, avec ces foules urbaines, d'avoir des écoles de qualité là où la population, hélas, vient et où l'école ne se trouve pas toujours. On a besoin d'électricité, pour l'instant. On pense que dans quelque temps, on pourra avoir des équipements solaires low cost. Pour l'instant, ça reste encore high cost pour nous. Je ne dis pas qu'on ne met pas quelques installations ici et là électriques, mais en général, on va là où il y a de l'électricité. Mais franchement, le solaire, on va l'avoir. Allez, c'est une affaire de 2 ans et demi, de 3 ans. Le temps de monter en puissance dans les différents pays, d'avoir cette masse d'enseignants formés au numérique, de faire les programmes locaux, on sera au rendez-vous. On sera au rendez-vous du défi du millénaire. Vous voyez bien, c'est l'esprit du programme Sankore. L'esprit du programme Sankore, c'est de se dire, au fond, avec le numérique, on peut faire le meilleur et on peut partager le meilleur avec les plus pauvres, faire en sorte que, comme ça a été le cas pour le téléphone portable, qu'il n'y ait pas la révolution numérique des écoles des riches et puis les laisser pour compte des pauvres. Mais le numérique, c'est formidable, c'est qu'on peut faire la révolution numérique tous ensemble. Merci.
Je voudrais, en guise de conclusion, dire que pour nous, il est important qu'on réfléchisse tous ensemble à l'apport de l'éducation numérique. Pour notre part, en tant que politique, il nous semble important d'aller dans cette direction. Mais je le dis une fois de plus, c'est en interrogeant aussi l'ensemble des acteurs. Nous avons parlé de l'UNESCO, mais pas que l'UNESCO. Il faudrait que tout le monde ensemble regarde dans la même direction et que, dans un dialogue permanent, nous sachions quoi faire exactement, parce que le partage du numérique, c'est aussi la co-construction du numérique et de ses contenus. Et c'est ce à quoi nous, en tant que gouvernement, nous nous engageons. Et bien entendu, j'espère qu'avec le programme Sankore, nous aurons dans quelques années d'autres exemples de réussite à présenter, notamment dans les secteurs que vous avez indiqués tout à l'heure. Le domaine dans lequel je travaille, c'est l'éducation non formelle. Il y a de belles initiatives en cours. Maintenant, il faut les consolider et aller plus loin.
Notre ami sur les programmes, les projets d'UNESCO, c'est de passer à l'acte tout de suite. Ne pas attendre que les enfants restent dans les rues. Il faut, parce que les programmes de l'UNESCO 2005, pour les ressources numériques éducatives libres, on n'a rien vu. Il y avait des déclarations, il n'y avait rien. Maintenant, il faut construire l'écosystème et on le fait concrètement. On ne le fait pas avec un projet, avec des séminaires. Certes, on a un séminaire, mais on va le faire concrètement. Il faut qu'on y arrive, qu'on passe à l'acte. Passer à l'acte, c'est essentiel.